Les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, les leçons d'anglais avec Michel Joseph, English USA. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. En Guinée, les affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants ont repris ce matin sur l'axe Bantebo-Kosa, alors que les Guinéens devraient connaître les résultats du premier tour de la présidentielle en fin de semaine. On fait le point avec Nathalie Barge.
Légalement, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures après réception du dernier procès-verbal du scrutin du 11 octobre avant d'annoncer les résultats. Le taux de participation au premier tour est d'environ 75% selon un communiqué de la CENI qui affirme que la journée du scrutin a été caractérisée par la sérénité, le calme et un engouement exceptionnel. La commission a essuyé des critiques des missions d'observation en raison de problèmes logistiques et d'organisation qui ont entraîné d'importants retards. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Frank Engel, a reproché à la CENI d'avoir changé les règles du scrutin dimanche, précisant que certaines modifications étaient en contradiction avec le code électoral. Quant aux 7 candidats en lice face au président sortant Alpha Condé, ils ont réclamé l'annulation du premier tour. Le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a mis en garde mardi contre tout appel à la violence, notamment les manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques. Et il a rappelé que toute contestation des élections devait se faire devant la Cour constitutionnelle.
Report des élections au Burkina Faso, le gouvernement annonce que les scrutins présidentiels et législatifs auront lieu le 29 novembre. Ils étaient initialement prévus le 11 octobre, mais le coup d'État manqué a retardé le processus. En Côte d'Ivoire, l'opposition menace de boycotter la présidentielle du 25 octobre, dont le président sortant Alassane Ouattara est le grand favori. Deux figures de l'opposition, ancien ministre des Affaires étrangères, Amara Issi, et Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, ont déjà annoncé leur retrait. Au moins 4 personnes ont été tuées dans 3 attentats suicides commis quasi simultanément, mardi soir à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque des insurgés islamistes de Boko Haram. Et justement, le président Barack Obama a annoncé ce mercredi le déploiement prochain de 300 militaires américains au Cameroun. Ils s'occuperont des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance dans la région de l'extrême nord, une zone en proie aux attaques islamistes de Boko Haram. République démocratique du Congo, les Nations Unies ont de nouveau assuré aujourd'hui n'avoir commis aucune bavure lors d'une opération aérienne menée début octobre par des casques bleus dans l'est du pays, contestant le bilan de 5 civils tués donné par les autorités de Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le gouvernement soudanais a bloqué à Port-Soudan, dans le nord-est, la livraison de fournitures essentielles, dont des rations aux soldats de la mission de paix conjointe ONU-Union africaine, la MINUAD, au Darfour. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à des journalistes l'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Rycroft. Si Khartoum ne lève pas son blocage, la MINUAD devra prendre des mesures alternatives coûteuses pour approvisionner ses casques bleus. Sachez aussi que l'ancien président béninois Mathieu Kérékou est décédé ce mercredi à l'âge de 82 ans. Dans le reste du monde, l'aviation russe a bombardé 40 cibles terroristes en Syrie au cours des dernières 24 heures. Il s'agissait, d'après le ministère russe de la Défense, d'une baisse importante du nombre de raids aériens par rapport aux jours précédents. Flambée de violence au Proche-Orient, un homme a poignardé une femme près de la gare routière de Jérusalem. La septuagénaire souffre de blessures graves. L'assaillant, qui a été neutralisé, a été décrit par la police comme un terroriste arabe. Une autre tentative d'attaque au couteau a eu lieu aujourd'hui contre un agent de sécurité israélien près de la vieille ville de Jérusalem. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Je cède la place à Michel Joseph, English USA, les leçons d'anglais.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Merci à Morgane Guiriec pour le tour de l'actualité en 5 minutes. C'est votre moment de votre antenne libre, votre émission interactive ici à VOA Afrique. À Washington, Eric Manilakiza avec vous pour encore une fois parler de la Guinée. Les résultats nationaux du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche en Guinée ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine au plus tôt, mais la commission électorale, qui a annoncé une forte participation de quelque 75%, a commencé à publier certains résultats. Sur 56 circonscriptions, la CENI dispose déjà des résultats issus de 23 circonscriptions. Légalement, la CENI dispose pour annoncer les résultats de 72 heures après réception du dernier procès-verbal en provenance des quelques 14 000 bureaux de vote répartis dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, grand comme le Royaume-Uni. Le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, a promis lundi de mobiliser ses partisans dans la rue, faute, selon lui, d'institutions indépendantes pour se faire entendre. Il a contesté les résultats. Faut-il aller au dialogue pour épargner la Guinée de nouvelles violences post-électorales? Sur quoi dialoguer? Pour quel compromis? C'est la question posée à nos auditeurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Mais la Commission électorale nationale indépendante a essuyé des critiques extrêmement sévères des différentes missions d'observation du scrutin, l'opposition également, en raison de la série de problèmes de logistique et d'organisation observés le jour du vote qui ont entraîné d'importants retards. Et le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Frank Engel, avait salué mardi un scrutin exemplaire au regard de l'absence de violence et de la forte participation le jour du vote, mais il a fustigé l'impréparation, voire la désorganisation totale de la CENI. Et le chef de la mission d'observation de l'Union africaine a recommandé à la CENI de corriger les problèmes récurrents du fichier électoral. Nous avons invité dans cette émission un représentant de la CENI pour donner des clarifications sur certains dysfonctionnements observés le jour du scrutin. C'est Monsieur Maxime Koivugi. Maxime, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Michel.
Voilà, il y aura des auditeurs pour vous poser des questions sur justement le déroulement du vote. On ne va pas vous embarquer sur le dialogue politique. Ce n'est pas votre rôle. Les auditeurs auront sans doute des commentaires à faire. Ils en ont fait sur notre page Facebook. Et c'est Eric Manilakiza qui est en votre compagnie ici à Washington. D'abord, la première question. Après le vote de dimanche, quel est le sentiment de la CENI, Monsieur Maxime?
Merci beaucoup, Eric, de m'avoir donné, particulièrement à la CENI elle-même, cette opportunité ce jour du 14 octobre, quelques trois jours après, 72 heures après le vote massif des populations et surtout de la population électorale guinéenne à l'intérieur comme à l'étranger. Mon premier sentiment, qui est même un point de vue en réalité, des occupations que j'ai à la CENI au titre de commissaire de la République, de la direction de la transparence, j'avoue particulièrement que, encore une fois, les Guinéens eux-mêmes ont montré leur attachement à leur pays, leur désir régulier et pertinent de voir l'image politique, démocratique de la Guinée s'améliorer, et ils ont donc saisi cette opportunité pour montrer à la face du monde qu'il y a encore en Guinée des exemples et de belles exemples à suivre. Bien évidemment, mon dernier sentiment, ma dernière opinion est que le plus souvent, on a pris l'attitude chez nous de dénonciation plutôt que de correction, ce qui veut dire que du point de vue de la démocratie pluraliste, nous avons un chemin à parcourir. Nous avons une éducation politique importante à rechercher, à obtenir, à diffuser à l'intérieur de nos populations, mais également à l'intérieur de l'ensemble de nos structures à caractère politique, partis politiques et structures d'appui à ces partis politiques. Donc, je suis heureux, totalement heureux, de voir qu'on ait traversé progressivement cette période où les citoyens attendaient de s'exprimer par le choix qu'ils ont fait des leaders, des candidats qui ont demandé à cette population électorale leur suffrage afin de briguer la magistrature suprême du pays. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur ces choix que les populations ont eu à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre traitement, il n'y a pas autre façon de gérer, autre façon de comptabiliser que de mettre carte sur table les choix faits individuellement à travers les bulletins de vote, de bureau de vote en bureau de vote, pour comptabiliser les faits réels, les faits et gestes posés par chacun pour que le président de la République qui sera tissu de ce scrutin soit un président choisi, désigné par la population guinéenne.
C'est Maxime, que monsieur
j'ai beaucoup
Maxime.
De plaisir et donc je suis vraiment à l'aise d'écouter la plupart des appréciations que les auditeurs de l'Amérique font de comment les élections, le scrutin s'est particulièrement déroulé le 11 octobre en République de Guinée. Je suis donc à votre écoute.
Merci, monsieur Maxime, pour toutes ces précisions. Je vous demanderai également d'être le plus bref possible pour qu'on ait la chance d'avoir beaucoup d'auditeurs et beaucoup de questions et beaucoup de réponses justement venant de vous-même. Une première question, il y a eu beaucoup de critiques des irrégularités relevées par différents acteurs impliqués dans le vote. Vous avez aussi reçu les rapports des observateurs. Est-ce que les allégations sont-elles fondées ou les irrégularités relevées?
En l'état, nous n'avons pas encore reçu de rapport déposé. Tous nous ont parlé de rapports préliminaires. L'Union européenne, d'ailleurs, nous a dit qu'elle poursuivait encore son observation jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. L'Union africaine nous a, avec la CEDEAO, nous ont fait connaître leurs conclusions sur l'observation qu'ils ont faite. Les rapports sont en train de nous parvenir. Toutefois, je crois qu'il ne faut même pas tourner du dos de la cuillère qu'il y a eu effectivement des constats faits par les citoyens eux-mêmes, les électeurs eux-mêmes, donc les observateurs en plus, de pas d'irrégularité absolue sur le vote, sur l'expression du suffrage, mais simplement du mode d'organisation. Certains ont parlé d'impréparation, non, pas du tout, mais bien entendu, des erreurs, et quelquefois même des erreurs provoquées par des acteurs le long de la chaîne d'organisation des enveloppes qu'on n'a pas retrouvées pour y mettre le bulletin, des enveloppes de vote. On n'a pas retrouvé des bulletins de vote pour quelques heures parce qu'on en a envoyé plus qu'ailleurs qu'il en fallait et donc certains bureaux de vote ont été pratiquement dégarnis après quelques votes seulement, après quelques passages d'électeurs. Et donc, on a réapprovisionné en allant prendre là où on en a mis beaucoup plus. Donc, c'est un peu, si vous voulez, plus d'ordre matériel organisationnel que d'impacter ou alors de donner des effets sur le choix. Et comme vous dites, de ne pas être long, j'espère que vos auditeurs seront dans certains détails, et comme ça je reviendrai sur ces aspects. Et tous donc reconnaissent qu'il y a une organisation qui a peut-être par endroit, et ça tout ce qu'on le dit, ce n'est pas dans tous les bureaux de vote, c'est par endroit que cela a été constaté. Je crois avoir entendu de 9% des bureaux de vote concernés par ces mauvaises organisations, mais ça n'a pas du tout été sur le choix de l'électeur pour le candidat pour lequel il devait voter.
Oui, merci. Vous avez commencé à donner quelques résultats. Quelles sont les tendances? Est-ce qu'on peut envisager un deuxième tour?
Bon, puisque nous avons eu sur les 24 procès-verbaux que nous avons reçus, la plupart en a été pratiquement de l'étranger où les effectifs d'inscrits, le nombre d'électeurs inscrits sont dans le processus les plus faibles. Il n'y a que quelques villes comme l'Abbé, Zérékoré, dont le nombre d'électeurs dépasse les 100 000 électeurs par circonscription électorale. Et donc, à l'heure qu'il fait, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance d'avoir un deuxième tour. Ce qu'on sait, c'est que tout simplement, tout le monde est, à la date d'aujourd'hui, pratiquement dans la zone d'équilibrage entre les candidats majeurs, particulièrement les deux qui, pour les résultats que nous recevons, ont la tendance vraiment d'être plus en avant, c'est-à-dire le candidat sortant, le professeur Alpha Condé, et son challenger de 2010, Elhadj Mamadou Sellou Diallo. Alors donc, il faut attendre peut-être demain soir pour voir tout simplement la tendance clairement se dessiner. Mmh.
Voilà, nous avons en ligne, restez en ligne, Monsieur Maxime, vous restez en ligne pour suivre les questions de nos auditeurs. Et s'il le faut, prenez un stylo et un papier pour noter quelque part. On va essayer de regrouper les questions. Abdoulaye Diallo, bonsoir.
Comment ça va?
Oui, ça va très bien. Très rapidement, d'abord, votre commentaire sur la possibilité de dialogue en vue d'éviter de nouvelles violences. Vous dites sur notre page Facebook qu'il faut que le dialogue ait sa place, n'est-ce pas?
Non, moi j'ai tout à fait dit le contraire. Mmh. Au fait, quand j'écoute M. Maxime, ça me donne vraiment un pincement de cœur. Sinon, parce que si nous ferons un peu une rétrospective du passé. En 2010, après les élections, il y a eu le rapport des observateurs. Je crois les mêmes erreurs. Prenons l'observation du 2013 au niveau de l'élection législative. Les mêmes observations que l'Union européenne avait faites, c'est les mêmes erreurs qui ont été commises par la CENI. Moi, je crois bien, il faut vraiment que la Guinée et que les Guinéens prennent leurs responsabilités. Dire les dialogues, moi, je ne vois pas une raison, parce qu'on en a tellement fait. En 2009, on en a fait. En 2010, on en a fait. En 2014, on en a fait. Tout récemment, en 2015, on en a fait des dialogues. Mais est-ce qu'il y a l'application? Non. Il faut vraiment il faut valoriser les lois de la République. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que la CENI nous dit qu'ils ont été prêts pour l'organisation des élections présidentielles. Mais voyez ce qui s'est passé. Moi, je crois bien qu'il faut vraiment qu'on valorise la loi de la République. Il faut vraiment choisir les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Éviter de parler de dialogue à tout moment. Ça n'en a pas une. Ce n'est pas une raison. Donc vraiment, il faut que les lois de la République soient appliquées en temps réel.
Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Très rapidement.
Moi, ce que je propose, il faut qu'on refonde la CENI. Après les élections présidentielles, il faut que la CENI soit recomposée. Au lieu qu'elle soit une CENI politique, il faut qu'elle soit une CENI technique. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que être juge et arbitre, tu es membre d'un parti politique et tu travailles pour une transparence. Ça, ce n'est pas question. Tu feras le jeu de ton parti politique. Donc moi, ce que je propose, il faut qu'il y ait une CENI technique en Guinée, qu'on cherche des hommes intègres pour vraiment diriger l'élection en Guinée. Sinon, on ne fera que du foutoir en Guinée.
Merci pour votre commentaire et votre question que j'ai bien notée et que M. Maxime a notée. Nous recevons Fulbert Doré. Fulbert, bonsoir.
Et bonsoir, monsieur.
Oui, d'abord sur la question de dialogue, et puis si vous avez une question à poser ou un commentaire à formuler par rapport aux explications de M. Maxime.
Non, je n'ai pas de questions. Mm-hmm. Concernant le dialogue est inévitable, hein, pour le moment. Le dialogue est inévitable. Il faut que les deux camps fassent pour discuter, pour que nous sortons de cette crise.
Mm-hmm. Et quel compromis faut-il dégager, selon vous?
Vous dites?
Quel compromis faut-il dégager, selon vous?
Il faut que le candidat sortant et c'est le Dalai Diallo Sassé pour pouvoir discuter concernant la destinée de ce pays. Parce que sincèrement, nous sommes pris en otage par ces politiciens-là. Uh-huh. Depuis le début de cette élection, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Uh-huh. Donc, il faut que ces gens Sassé aient discuté. Mais tout ça, c'est la CENI. La CENI 2010, elle vient encore de confirmer une CENI qui est vraiment une CENI corrompue. Elle nous avait dit qu'elle était prête, mais on vient de le constater pendant ces élections. Beaucoup d'anomalies, les observateurs internationaux en ont constaté. Vraiment, il faut une réforme de la CENI.
Oui, mais les observateurs internationaux, ils ont dit que malgré les anomalies, que ça n'en remettait pas en cause... disons, la crédibilité des résultats.
Les observateurs internationaux, c'est ce qu'ils ont dit, mais pour pas, comment on appelle, ils ont, c'est 14 000 bureaux de vote. Les observateurs internationaux n'ont signé que 114 bureaux de vote. C'est 14 000 bureaux de vote. Ils ont signé 114 000 bureaux de vote. Ils ne veulent pas venir s'asseoir à Conakry, ils disent que les élections se sont bien déroulées. À Conakry, ils ont signé. Ils n'ont pas été à l'intérieur, là. Ils n'ont pas été à l'intérieur du pays. Il y a eu beaucoup d'anomalies à l'intérieur. Il y a eu même les échos sur le cas de Téliméné, où le nombre d'inscrits, le nombre de votants est plus nombreux que le nombre d'inscrits.
Mmh.
Non, vraiment.
Merci pour votre commentaire, Fulbert. Nous recevons Georges Semsier. Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, votre contribution par rapport au dialogue.
Oui, moi je prône pour le dialogue. Je prône pour le dialogue, mais malheureusement, c'est un constat qu'on a fait. Dans la majorité des cas, si on procède par ce dialogue-là, souvent, ça va toujours en faveur des partis au pouvoir. Et c'est un peu inquiétant en Afrique, mmh. Et surtout en Guinée. Là. Donc, oui.
Mais en matière de dialogue, il y a aussi la question du rapport de force qui joue.
Ah oui, c'est-à-dire les soucis, on est que ce n'est pas quand même normal de voir aujourd'hui là, le reste des différents candidats qui sont à l'opposition, qui se sont réunis pour dire que non, en tout cas, on ne va pas reconnaître les résultats qui vont sortir. Là. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Uh-huh. Donc si la CENI peut toutefois revoir un peu sa stratégie, puisque sinon, ça va créer toujours des problèmes au pays, ça ne serait pas bon.
Oui, on a quelqu'un de la CENI qui vous écoute. Vous pouvez lui poser une question, c'est M. Maxime.
Oui, oui.
Oui, allez-y.
Je peux lui poser.
Oui, oui, posez votre question.
Oui, c'est juste, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui est vraiment à la base? Qu'est-ce qu'il y a à la base de la résistance de l'opposition, puisque l'opposition aujourd'hui là s'aligne tout en disant qu'elle ne peut pas reconnaître le résultat qui va sortir là. Est-ce que il y a quoi au juste?
Uh-huh. Merci, ouais. Merci Georges pour votre commentaire et pour votre question. Monsieur Maxime vous répondra tout à l'heure. Il y a des auditeurs qui ont posté des messages sur notre page Facebook. Il y a Mamadou Bobo Diallo. L'opposition a fourni le bâton pour se faire battre, c'est son idée. Sinon, comment comprendre qu'avec toutes les anomalies qu'elle a constatées, elle décide de participer à une élection qu'elle savait perdue d'avance? Et il y a Mamadou Bassirou qui dit que la CENI est très nul, 5 années pour organiser des élections et on s'aperçoit qu'ils n'ont rien fait, même les enveloppes ne suffisaient pas. Boubacar Diallo, on n'a pas besoin de dialogue, il faut seulement dire à la classe dirigeante de respecter la volonté du peuple en sortant les vrais résultats issus des urnes et non des résultats falsifiés par la CENI médiocre, entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Je pense que Maxime aura des réponses à donner à nos auditeurs. Et Mamadou Konaté, pourquoi en dialogue? On est parti aux élections, le meilleur a gagné, on ne connaît pas encore les résultats malheureusement. Pour mon pays, ce n'est pas un problème de dialogue, il suffit juste de lire les notes de commentaires et vous serez vraiment la cause de ce qui se passe dans mon pays. Merci. Tchenebou Mariko, il faut un dialogue, que la violence, il faut que le gouvernement fasse ouverture à un gouvernement d'union nationale pour la paix. Abdoulaye Banora Camara, la Guinée traverse une période très très dangereuse. La mouvance présidentielle veut gagner les élections dès le premier tour et l'opposition demande que le scrutin soit annulé pour des raisons suivantes. Fraude massive du scrutin, des citoyens qui contestent ce qu'il dit. Il y en a aussi des citoyens, je rappelle, qui sont d'accord avec le scrutin. Augustin Abou, dialogue, pourquoi? Il faut tout simplement respecter le résultat des urnes. Maxime, je vous retourne la parole pour répondre à certaines questions. Vous avez entendu Abdoulaye Diallo qui disait que les mêmes erreurs sont revenues. Des erreurs de 2010, aucune leçon tirée du passé, Monsieur Maxime?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que en Guinée, il faut avouer que nous faisons du chemin et les Allemands aiment dire le pas à pas et les Américains disent construisons ensemble. Premièrement, qu'est-ce qui a changé? Pendant les législatives, Jéré Coré avait perdu dans le rapport de l'Union européenne 182 procès-verbaux non comptabilisés. Kaloum en avait perdu un peu plus moins, mais de nombreuses, disons, enveloppes dans lesquelles il se trouvait des procès-verbaux. Matoto était enlisé dans cette question de perte de procès-verbaux et tous les mécanismes de remontée des procès-verbaux étaient coincés jusqu'à ce que pratiquement il y a eu 2-3 semaines avant qu'on ait le procès-verbal de Matoto. Ce qui est certain aujourd'hui, dans les anomalies ou les irrégularités constatées, vous en avez essentiellement deux cas. Le premier cas, c'est le retard qui a été pris dans la mise à disposition des cartes d'électeurs pour que les citoyens, disons, puissent le retirer à temps voulu, au lieu d'être un peu stressés ou avec des pincements de cœur, comme M. Diallo le disait, pour aller chercher, disons, hâtivement leur carte d'électeur. Cela a été le point de départ des discussions sur est-ce que la CENI est prête, est-ce qu'elle est préparée, etc. Deuxième élément essentiel qui est lié globalement aux fichiers, c'est la lecture difficile. Disons qu'il y a eu une espèce de police d'écriture assez faible, assez maigre dans la présentation de la liste de démargement dans les bureaux de vote qui ne rendait pas facile l'identification, disons, assez rapide des électeurs quand ils arrivaient. Donc, cela a posé un problème partout. Certains ont ouvert des registres. C'est vrai, c'était la chose importante. Et par endroit, il ne faut pas le généraliser du tout, par endroit, il y a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le mode d'organisation, des enveloppes qui se sont retrouvées plus en grand nombre, comme des bulletins de vote, plus en grand nombre, dans certains bureaux de vote et être en moins de quantité.
Monsieur Maxime, restez en ligne. Restez en ligne, c'est une petite pause et nous revenons vers vous.
La Guinée dans Antenne Libre sur VOA Afrique.
Voilà la Guinée.